des raisons familiales, nous avons vu apparaître dans l'entreprise une nouvelle génération au début des années 60 qui n'avait pas connu la guerre, qui se reconnaissait beaucoup de droits et pas beaucoup de devoirs et qui avait été remarquablement mal élevée par ses parents. Pour des raisons qui s'expliquaient, qui sont liées à la guerre, hein. Les parents ayant subi de plein fouet, quand ils étaient eux-mêmes jeunes, les difficultés de la guerre, avaient envie que leurs enfants, j'allais dire, profitent de la vie, eux-mêmes faisaient la course aux deux salaires. C'était une génération qui communiquait très mal, et par conséquent, le dialogue était difficile entre cette génération et ses parents. C'était une génération qui disait une morale instrumentale, ça se fait pas, sans justification, et surtout pas avec comme justification le bonheur, ce qui est pourtant la manière de dire la morale. La morale est faite pour que les gens soient heureux, pas pour autre chose. C'est pas fait pour les emmerder, c'est fait pour qu'ils soient heureux, qu'ils aient des chances d'être heureux. Voilà. Donc, je me suis intéressé à cette génération. Au milieu des années 60, en 65, je faisais de la formation d'agent de maîtrise dans la chimie, puisque j'étais à l'époque dans l'industrie chimique. Et j'ai annoncé qu'avec cette génération, nous aurions un clash. J'étais incapable de dire quand. Je pensais même que ça viendrait un peu plus tôt que mai 68. C'est venu en mai 68, mais je pensais que ça viendrait un peu plus tôt. On a souvent tendance, quand on sent quelque chose, à le voir venir plus vite que ça ne vient. Il y a toujours un temps de latence. C'est ce qui s'est passé. Alors, à la suite de ça, on a constaté que les idées en question ont continué à se développer dans les années 70, et les conséquences que nous avons eues dans l'entreprise, c'est de voir arriver de plus en plus de gens immatures, incapables de prendre des engagements, incapables de les tenir. Anna Trella a baptisé ça les nouveaux adolescents, en faisant un néologisme entre adultes et adolescents, c'est-à-dire des adolescents d'âge adulte qui se sont multipliés, notamment chez les mâles, plus chez les mâles que chez les femmes. Ce qui s'explique parce que les femmes ont toujours au moins le poids de la maternité et de l'éducation des enfants quand les hommes sont partis, et donc les femmes, de ce côté-là, sont plus mûres. Alors, cette crise de société qui a touché tous les pays développés, hein, il ne faut pas croire qu'elle a touché uniquement la France. J'ai eu l'occasion de discuter avec des syndicats européens ou internationaux de branches industrielles. Pratiquement, ce qu'on appelle chez nous la crise 68-arde, ça a touché tous les pays d'une façon plus ou moins rapide, plus ou moins paroxystique. Ça a été moins paroxystique dans certains pays, mais ça a été plus précoce, par exemple, aux États-Unis que chez nous. Les Américains font toujours les conneries 20 ans, 10-20 ans avant nous. Donc, ce qui est d'ailleurs, ça pourrait être très utile parce qu'on pourrait en tirer des leçons et une prévention, mais on ne le fait jamais. Bon. Alors, j'ai commencé à travailler sur ce qui était le plus important dans cette crise de société. Et je vous propose trois volets importants de cette crise de société, parce que si la crise est derrière nous, dans son effet paroxystique, les conséquences de la crise, au contraire, ont été amplifiées peu à peu, notamment répandues par les médias, et c'est très bon pour l'éducation de savoir dans quel climat vivent nos enfants. Donc le premier élément important de la crise, qui est classique après les guerres, c'est une montée du matérialisme, parce que les gens ont été privés d'un certain nombre de choses pendant les guerres, et on a toujours une certaine montée du matérialisme après les guerres, et donc une baisse du spirituel, alors que quand on est dans la mouise jusque-là, on se précipite dans les églises. En 40, par exemple, les églises étaient pleines. En 46, 47, elles commençaient à se vider, tout doucement. Alors cette crise a été en fait accentuée dans le cas particulier parce qu'il y a eu des retombées importantes des progrès de productivité qu'avaient été obligés de faire les Américains pour construire à toute allure en 41 une nouvelle flotte, des avions, des chars, de l'armement. Ils ont développé des moyens, des méthodes extraordinaires à la fois sur le plan de l'organisation, sur le plan de l'acceptation ou du refus des lots. Et à l'après-guerre immédiate, il y avait des émissions, des missions entières de productivité qui allaient regarder ce que les Américains avaient fait. Le résultat s'est pas fait attendre. Le pouvoir d'achat du Français moyen entre 1945 et 1975 a été multiplié par 3,5. C'était jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Hein. Et le pouvoir d'achat, ce qui est beaucoup plus important encore, de celui qui était à la base, c'est-à-dire celui qu'on appelait le manœuvre balai en 1945 et qu'on appelait le technicien de surface en 1975, a été multiplié par 10. Il ne faut pas s'étonner que ça soit monté à la tête des gens et qu'ils aient vraiment cru que les biens matériels allaient apporter le bonheur. Bon. Jamais c'était arrivé dans l'histoire de l'humanité. C'est donc les circonstances particulières liées justement au progrès scientifique, et vous savez que les hommes font toujours de remarquables créations quand il s'agit de se tuer, hein, ils sont particulièrement doués, ça continue, d'ailleurs on continue à faire de très grands progrès dans ce domaine-là, et heureusement il y a quelquefois des retombées civiles qui sont utiles, et il y a eu des retombées civiles. Après les 30 Glorieuses, on a eu un, toujours dans le domaine économique, et c'est quand même important pour le matérialisme de notre époque, on a eu un deuxième basculement, que j'ai expliqué à mes élèves parce que ça venait de se passer, en 78, quand j'ai pris la direction de l'école de chimie de Lyon, c'est la sortie d'une économie de pénurie pour rentrer dans une économie d'abondance, qui prépare la société de consommation. Pour vous donner un exemple, j'ai commandé mon premier téléphone en 60, je l'ai eu en 64. 4 ans après, les jeunes l'attendent 4 minutes. Vous voyez, ça fait une notable différence. Hein. J'ai commandé ma première Dodge en 60, je l'ai eu également en 64. Et encore, il a fallu que je donne du pognon à Citroën par avance pour qu'il me fasse la grâce de me donner une bagnole de la couleur qu'il voulait. Pas que je voulais, bien sûr. Bon. Donc vous voyez, 4 ans pour attendre une bagnole, 4 ans pour attendre le téléphone. Bon, c'est fini ça. Nos jeunes, ils ont l'habitude de l'abondance. Alors, ça a des conséquences immédiates. C'est comme on peut tout trouver, on peut se faire son petit monde à soi. Donc ça fait monter l'individualisme. La société de consommation est une société qui fait monter l'individualisme. Chacun avec son caddie se crée sa petite vie, ses loisirs, son fonctionnement. Lui. Puis quand on est dans l'abondance, on ne pense pas aux autres. Hein. Alors aujourd'hui, on a un retour de bâton que j'avais annoncé à mes élèves dès 78 en leur disant, dans cette nouvelle économie d'abondance, le client est roi. Donc il va demander le meilleur rapport qualité-prix-service, et il l'obtiendra. Seulement pour le lui donner, on va délocaliser, c'est évident, et les Français avec et les Occidentaux avec le niveau de vie qu'ils ont, ils devront sur le plan de la qualité et de la quantité de travail en donner beaucoup plus. Les politiques se sont bien gardés d'en dire le moindre mot aux Français. J'ai pu interroger en 78, le commissaire au plan, qui est en train, Michel Albert, qui est en train de devenir président des AGF, il m'a confirmé qu'ils avaient fait des simulations avec les grosses bécanes du plan, et qu'ils avaient dit aux hommes politiques ce qui allait se passer, et lesquels hommes politiques se sont bien gardés de le répercuter, sauf quelques-uns qui ont d'ailleurs perdu leur place. Ce qui est tout à fait classique dans les démocraties, dès qu'on dit des choses désagréables, les gens vous foutent dehors. C'est pour ça d'ailleurs que En 1933, les démocraties n'ont pas osé écraser Hitler, qui était minuscule à cette époque-là, et on s'est tapé 45 millions de morts pour l'avoir laissé grandir jusqu'à 1939. Bon. C'est des choses qu'il faut savoir, ça rend intelligent, vous voyez, de faire un peu d'histoire. Donc nous sommes dans une période où le matérialisme est roi, et ne vous étonnez pas que les églises se soient vidées, et que la spiritualité du Français moyen soit à l'encéphalogramme plat. Hein. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de renouveau. Hein. Je ne suis pas pessimiste du tout sur l'avenir. En plus, si je l'étais, l'entrevue que j'ai eue avec Marthe Robin en 73 m'aurait définitivement vacciné contre toute forme de pessimisme, puisque c'était son charisme. Mais il faut être réaliste. Hein. L'état des lieux sur le plan matérialiste et crise du spirituel est énorme. Ouais. Largement encouragé et développé par les médias. Deuxième volet de la crise à laquelle nous sommes confrontés, c'est une crise de l'intelligence Et entendez bien l'intelligence dans son vrai sens, c'est-à-dire la capacité pour les gens de comprendre ce qui se passe, de discerner, de voir clair. Ne pensez pas mécanique intellectuelle. Il y a des bac plus 11 qui sont des vrais crétins. Il y a la même proportion de crétins à Polytechnique que partout ailleurs. Donc ce n'est pas une question de mécanique intellectuelle. Hein. La mécanique intellectuelle, les Français, on est très attachés à ça. On veut absolument que nos gosses fassent les classes prépa et tout. Ça n'a aucun intérêt. L'important, c'est que les gosses soient intelligents. Eh bien, on a de moins en moins de gosses intelligents. Alors la crise n'est pas commencée par l'école, elle a commencé, j'allais dire, par les adultes, liée à la prégnance des idéologies à l'après-guerre. À l'après-guerre, on est dans les idéologies jusque-là. Elles sont nées entre les deux guerres, 17 pour l'idéologie communiste et un peu plus tard pour l'idéologie nazie. Les deux idéologies en question ont été condamnées à 3 jours d'intervalle par Pie XI en 1937, mais elles se sont développées toutes les deux, et à l'après-guerre, on est dans un magma idéologique jusque-là. Or, une idéologie, c'est un prêt à penser. Vous voyez, ça dispense les gens de penser. Bon. Alors ensuite, vous avez eu les mass-médias. Alors les mass-médias, c'est l'encéphalogramme plat. Bon. Et puis, vous avez le problème de l'école. Et le problème de l'école est beaucoup plus grave, parce que c'est dès le début de leur vie intellectuelle qu'on conditionne les jeunes à ingurgiter quelque chose et à le régurgiter, et non pas à apprendre à penser. Et les programmes ont été faits d'une façon tellement à la fois utilitariste et inflationniste que je plains les pauvres professeurs qui aiment leur métier et qui n'ont pas le temps d'apprendre aux enfants à penser. Vous avez des enfants qui n'apprennent pas à penser. On leur apprend pas. Alors, vous voyez d'ailleurs le déséquilibre que ça fait dans la société. Ça veut dire qu'il y a des classes hyper favorisées et qu'aujourd'hui, il y a des classes hyper défavorisées dans ce domaine-là, ce qui n'était pas le cas il y a 50 ans. Je peux vous dire que dans ma promotion de Polytechnique, il y avait plus de 22% de gens d'origine sociale modeste. Il y en a moins de 8% aujourd'hui. Nous avons une nouvelle classe soi-disant élitique qui est présente partout, hein, et on veut éviter ça avec les quotas. Il faut être con comme un homme politique pour avoir une idée pareille, parce que ça n'évitera rien du tout, hein. Si on fait des gens rentrer dans une école parce qu'ils sont beurre, black ou portoricains, ça ne les rendra pas intelligents pour autant, hein. Non, ce qu'il faut, c'est avoir une école de qualité qui s'adresse à tous les milieux sociaux et qui soit capable, vous voyez, de leur donner tout de suite une armature. Le certificat d'études d'il y a 50 ans, irremplaçable. Ouais, je l'ai écrit dans la revue des anciens polytechniciens, exprès pour faire comprendre à mes copains que nous avons fait une régression dans le domaine de l'école qui est considérable. Alors je ne parle même pas de cette régression prodigieuse de 4000 ans qui est la méthode globale. Ça, c'est 4000 ans de recul. Ouais. On passe de l'alphabet qui est une invention intelligente, on revient aux hiéroglyphes. Il faut photographier les choses, ça favorise le cerveau droit. Enfin, on connaît maintenant tous les inconvénients des méthodes globales, semi-globales. On sait maintenant pourquoi les surdoués sont les plus cassés actuellement par le système scolaire, et c'est normal, parce que c'est des gosses qui marchent avec un cerveau droit très performant parce qu'ils ont une bonne mémoire. Le cerveau droit fonctionne de façon analogique, il a donc besoin d'un stock. Donc si un gosse a de la mémoire, il a un bon stock. On dit qu'il est intelligent, non, il n'est pas intelligent, il a une bonne mémoire, hein, et on va le casser, et vous avez toute une série de surdoués qui, à partir de la seconde, ouais, se cassent complètement la gueule et ne comprennent pas ce qui leur arrive. Bon. Donc on a une école aujourd'hui qui n'apprend plus à penser, une école d'incultes, hein, et d'ailleurs on en est à la deuxième ou la troisième génération, donc on a maintenant, en plus des profs incultes, qui font des profs de français qui font des fautes d'orthographe grosses comme des maisons au tableau, hein. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Ma petite dernière est prof dans le public en collège. Elle me dit, on voit arriver des gosses qui n'ont aucune idée des règles de grammaire qu'ils auraient dû apprendre dès le CE1 ou le CE2. Vous avez des gosses à qui on donne la calculette en CE1. Hein, alors, ils n'ont jamais compris ce que c'était qu'une opération. Et ils font ça. Déjà, rien que le passage, vous voyez, de la règle de 3 à l'opérateur en croix, est une perversion terrible, parce que la règle de 3 se parlait, hein. Or, écoutez Laurent Laforgue, médaille Fields de mathématiques, c'est-à-dire l'équivalent du prix Nobel, hein, il dit, si on continue à empêcher les gosses de connaître le français, on n'aura plus un matheux. Parce que les maths, c'est d'abord de la logique verbale. Bon, donc on n'aura plus un... Alors que c'était notre gloire, on avait beaucoup de médailles Fields, beaucoup plus que de prix Nobel de physique ou de chimie, mais ça c'est fini, hein, c'est le passé. On a déjà deux bonnes générations d'institutrices qui ne savent pas, enseigner. Bon, donc, je ne parle pas du reste, parce que le collège, alors c'est vraiment la cata des catas. Bon, donc on a une crise de l'intelligence qui est très grande, et on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ne savent plus vraiment discerner. Je fais une petite parenthèse, mais elle n'est quand même pas négligeable. Quand avec mes copains de lire et écrire, on a fait une remontée historique, on s'est aperçu que toutes ces méthodes, le pédagogisme, le constructivisme, toutes ces perversions du système pédagogique, elles sont nées dans les milieux marxistes, libertaires, en même temps aux États-Unis et très vite également en Europe, notamment avec l'école de Francfort, et en tout cas aux États-Unis dans les années 20 et en Europe dans les années 20. Et d'ailleurs Gramsci, italien, lui, disait quelques années plus tard, Lénine s'est trompé, il croyait qu'on pourrait prendre le pouvoir par le prolétariat, nous le prendrons par la culture et par l'école. Ouais, donc c'est pas un accident là, c'est carrément délibéré, c'est une action délibérée. Et vous verrez qu'il y a une deuxième action délibérée, et vous comprendrez tout de suite pourquoi. Alors, troisième élément de la... troisième volet de la crise, c'est la crise de la morale. Ouais. Aujourd'hui, le terme simplement de morale donne des boutons à beaucoup de gens, et d'ailleurs, j'ai proposé dans un article récent de remplacer le terme de morale, puisqu'il donne des boutons à tout le monde, ce qui fait que ça évite de pouvoir en parler. Il faut remplacer ça tout simplement par un terme que j'ai lu chez un certain Joseph Ratzinger, qui a eu de l'avancement depuis, hein, en 85, dans les entretiens avec Vittorio Messori, un journaliste italien, il disait, je comprends pourquoi il y a autant de problèmes dans notre société, les gens ont perdu l'idée simple qu'il y a un mode d'emploi de l'homme. La morale, c'est simplement le respect du mode d'emploi de l'homme. Et d'ailleurs, on a des alliés prodigieux pour ça, si on a envie de prôner une certaine morale. C'est les sociologues. Les sociologues, ils nous disent, les sociologues scientifiques, hein, c'est-à-dire les sociologues sérieux, hein, ils nous disent, si on crache en l'air et qu'il n'y a pas de vent, ça vous retombe sur la gueule. Bon, donc c'est très simple, et d'ailleurs les Américains publient régulièrement, vous voyez, des groupes avec, comme ça, pour dire, voilà l'erreur de mode d'emploi qu'on a fait chez nous, voilà les conséquences, voilà l'erreur de mode d'emploi qu'on a fait chez nous, voilà les conséquences. Donc, il y a eu une attaque en règle contre la morale. Jean-Yann, qui est un humoriste, a traduit ça par le fameux « il est interdit d'interdire », ce qui au passage, si vous connaissez le langage, c'est une absurdité de dire ça, puisque c'est interdit, on n'a pas le droit d'interdire. Donc « il est interdit d'interdire », c'est un principe de rétorsion connu par Aristote et développé par saint Thomas d'Aquin, ça fait le genre de phrase, vous voyez, où vous pouvez tout de suite flinguer l'autre, ouais, lui dire « tu viens de dire une énorme connerie, donc... Ou tu changes de discours et on peut discuter, ou tu gardes des perversions du langage. Vous voyez, le langage, c'est très important. Et avoir des jeunes Français qui ne parlent plus leur langue, et avoir des profs qui eux-mêmes ne parlent plus, et avoir des gens plein les médias qui font faute de français sur faute de français, c'est beaucoup plus grave qu'on ne le croit. Vous voyez, par exemple, autre exemple de la rétorsion, hein, qui montre qu'une phrase peut être flinguée dès le départ. Il n'y a pas de vérité. Le gars qui vous dit ça, il énonce une vérité. Donc il se contredit lui-même. Donc vous lui dites tout simplement, tu n'as pas le droit de dire, il n'y a pas de vérité. Par contre, si je dis, il m'arrive de me tromper, vous verrez que cette phrase est indiscutable. Donc il y a bien des choses qu'on peut affirmer dans le langage et des choses qu'on ne peut pas affirmer. Mais aujourd'hui, qui sait ça? Alors là, même les grands profs de français, je demande à savoir si les agrégés le savent. Je ne suis pas sûr qu'ils sachent ce que c'est que le principe de rétorsion. Bon, alors, crise de l'intelligence, derrière crise de la morale. Alors, cette crise de la morale, d'autres que moi, mais avec lesquels j'ai été en contact, je pense à Alain Toulza notamment, ont fait la même enquête que nous l'avons faite pour lire et écrire, ça part des mêmes milieux, à la même époque, hein, dans les milieux marxistes libertaires américains, dans les milieux marxistes libertaires européens, on a décidé de détruire tout ce qui ressemblait à la morale, c'est-à-dire à la maîtrise de soi par la volonté. Or, qu'est-ce que vous faites si vous détruisez l'intelligence et la volonté? Vous faites des bœufs, éminemment manipulables. Aussi bien d'ailleurs par un système totalitaire que par un système dit libéral. D'ailleurs, le Belge Mgr Scheyens a écrit un bouquin remarquable qui s'appelle « La dérive totalitaire du libéralisme ». Sous couvert de libéralisme, les médias vous enseignent en permanence et vous martèlent les mêmes choses, et c'est une véritable dérive totalitaire. C'est ce qu'on appelle le politiquement correct. J'ai fait une conférence là-dessus il y a 2 jours. Je n'ai pas le temps de la refaire parce que ça nous tiendrait jusqu'à midi. Bon. Alors, voilà les 3 éléments de la crise. Une crise de l'intelligence, une crise morale, une crise spirituelle. C'est donc bien un défi. Parce que même si cette crise, en termes paroxystiques, est derrière nous, les effets de la crise, ils sont tous les jours dans vos médias, dans Internet, partout. Des absurdités de raisonnement, ça c'est la crise de l'intelligence. La libération sexuelle sans frein, ça c'est la crise de la morale. Et puis, le matérialisme tranquille, qui n'est plus idéologique, il est le matérialisme pratique de tous les jours. Alors que faire pour nos enfants? Que faire pour nos enfants pour essayer, si vous voulez, de leur épargner, d'être contaminés, parce que c'est une contamination, et c'est donc un défi important, et je vous garantis que même quand les parents s'en occupent de près, c'est extrêmement difficile aujourd'hui, puisque nos enfants vivent à l'école, dans la rue, les kiosques à journaux, beaucoup ont Internet et les parents contrôlent à peine ce qu'ils font sur Internet. C'est très difficile d'éviter aux enfants de ne pas être contaminés par le monde actuel. Je dis d'ailleurs à mes propres enfants qu'ils ont une tâche éducative qui est beaucoup plus lourde que celle que j'ai eue à mon époque. Il n'y a pas photo entre les deux. Alors, j'ai donc continué à travailler sur la question. Et finalement, en 2002, vous voyez, j'ai sorti le défi éducatif en 89, et j'ai sorti en 2002 seulement les 9 fondamentaux de l'éducation, c'est-à-dire un plan d'action. C'est un plan d'action. Je ne suis pas rentré dans des considérations compliquées de gourou des sciences humaines, j'ai préparé pour les parents un plan d'action. Ce plan d'action, il y a 3 domaines, tous les 3 importants. Je ne vais pas spécialement les hiérarchiser, je vous dirai à mon avis un des points qui est le plus important, notamment pour éviter que les enfants fassent la fameuse crise d'adolescence, qui peut être grave. Elle n'a rien de fatal, mais quand elle existe, cette crise de l'adolescence, elle peut conduire au suicide, à la drogue, à la fugue, à tout ce que vous voulez. Donc c'est quand même important. Je vais les prendre dans l'ordre chronologique et je signalerai au passage quels sont les acteurs les plus importants dans cette action éducative. Première action éducative dans l'ordre chronologique. Ça n'a pas besoin d'attendre l'âge de raison. Par conséquent, ça commence dès la sortie de la clinique d'accouchement. C'est de faire de l'enfant un être civilisé. Vous voyez, un de nos ministres avait parlé d'incivilité à un moment des jeunes, et c'était un bon terme, ça veut dire des gens qui se comportent comme des petits barbares. Or, j'avais pendant plusieurs années, à quelques mètres de mon presbytère, une école maternelle, et je voyais rentrer tous les matins une horde de petits barbares dans une maternelle catholique, je précise, enfin une maternelle publique, non. Je voyais passer des petits barbares, il y a des gens incapables de faire silence, incapables de ne pas se battre, incapables non civilisés, incapables de respecter des règles du jeu, et nous avons une majorité de gosses aujourd'hui qui sont des petits barbares. Donc il faut les civiliser, et la civilisation se fait beaucoup mieux entre 0 et 6 ans qu'après. Si l'enfant a pris, comme on dit, des mauvaises habitudes, l'être humain est un être d'habitude, C'est pour ça qu'on lui apprend à manger à des heures régulières, à prendre des oligo-éléments, à équilibrer les protéines, les lipides et les glucides. Mais dans tous les domaines, l'homme est un être d'habitude, y compris sur le plan religieux. Il y a, la pratique religieuse, c'est des bonnes habitudes, vous voyez. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait l'âme qui y rentre, mais ça ne fait rien. On a besoin d'habitudes, c'est l'être humain est comme ça. Alors, quels sont les trois domaines importants? Ben, le premier domaine, c'est d'apprendre que dans toute communauté humaine, et justement ça commence par la famille, qui est la première cellule de société, il y a des règles du jeu qu'il faut les respecter. Alors c'est le sommeil des autres, c'est les heures de repas, c'est la nuit c'est fait pour dormir, c'est, etc. Bon, alors vous voyez que ça commence très tôt, puisque la nuit c'est fait pour dormir, c'est pas la tasse de thé habituelle du nourrisson qui sort de la clinique d'accouchement, surtout s'il n'est pas allaité. Hein. Un gosse qui n'est pas allaité, il pleure plus qu'un autre gosse, notamment il peut pleurer la nuit. Deuxièmement, il n'y a rien de plus intelligent qu'un bébé, c'est une intelligence prodigieuse, ça pompe absolument tout à une vitesse formidable, et très vite il s'aperçoit qu'il peut manipuler la mère. Hein. Donc au passage, d'ailleurs, ça donne un premier indice que celui qui doit éduquer, c'est le père et pas la mère. Hein. La mère est pas faite pour éduquer, elle a une autorité d'amour, hein, qui se passe de gouvernement, mais comme le péché originel existe, cette autorité de l'amour, elle échoue quelquefois, et quand maman veut gouverner, elle crie. Les enfants le disent d'ailleurs, maman crie. Ça veut dire qu'elle n'est pas faite pour ça. Parce que le père de famille n'a pas besoin de crier, il prend le nourrisson d'une main, il dit ça va être ta fête, il le repose. PFG, PPUR, tu vas en prendre plein la gueule pour pas un rond si tu continues à nous gonfler. Bon, et l'enfant comprend ça très très vite, il ne faut pas croire qu'il n'aime pas son père parce que son père fait respecter la loi, au contraire, il aime ce père qui fait respecter la loi, comme il aime sa maman qui est l'avocate, la tendresse, la compassion, la miséricorde, etc. Ouais. Il y en a un qui dit la loi et qui la fait respecter, et l'autre qui fait l'avocate, le juge d'application des peines, etc. Et de cette façon, les vaches sont bien gardées. Mais le gosse apprend, et très tôt, et plus tôt il apprend, mieux ça vaut, qu'il y a dans toute communauté humaine ce qu'on pourrait appeler la loi. Et vous voyez que c'est très important qu'il l'apprenne dans la vie sociale dès le début, parce qu'à l'école, il va apprendre qu'il y a aussi des lois grammaticales, des lois orthographiques. Vous voyez ? Et il ne faut pas croire que l'école ne joue pas un rôle éducatif de ce fait. Elle joue un rôle parce qu'elle aussi, elle impose des normes. Aujourd'hui, elle n'impose plus de normes, et bien les élèves sont des petits barbares. Hein, ça favorise énormément. Et puis plus tard, on apprendra la loi morale, et la loi morale, c'est aussi des règles du jeu. Ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas que l'on te fît. Fais à l'autre ce que tu aimerais que l'on te fasse. Au passage, vous voyez, imparfait du subjonctif et présent du subjonctif, il faut respecter des règles de concordance des temps. Silence. Digérer le pain imparfait du subjonctif, que plus personne n'emploie, ce qui est détestable. Bon, bref. Alors, la loi, c'est le premier élément, vous voyez, c'est dans l'ordre chronologique, le premier élément que l'enfant doit intégrer. C'est pour ça qu'il y avait un bouquin qui avait été écrit il y a déjà, je ne sais pas, au moins 40 ans. À 5 ans, un enfant est achevé d'imprimer. C'est que c'est justement entre 0 et 5 ans que s'imprime en lui, ces règles de la vie sociale. Alors, deuxième règle de la vie sociale, toute personne est respectable. Le respect de toute personne est la base de la vie sociale. Alors, c'est évident, théoriquement, pour les chrétiens, puisqu'ils savent que toute personne est un enfant de Dieu, et comme tel, il est respectable, mais de toute date, vous voyez, des philosophes qui n'avait aucune croyance religieuse, disait c'est l'éminente dignité de la personne humaine. Autrement dit, par une voie agnostique ou par une voie croyante, on arrive à la même conclusion, c'est que c'est la personne qui est respectable. Et que nous disent les médias aujourd'hui? Absolument pas ça. Ils nous disent que les comportements doivent tous tolérer. Ça n'a rien à voir. Hein, ils confondent volontairement la personne avec ses comportements. Pour faire passer les comportements amoraux. Vous voyez, au nom du respect, eh ben c'est monstrueusement faux, vous voyez, sur le plan philosophique n'y a pas besoin d'être chrétien pour se rendre compte que c'est une perversion véritablement de l'intelligence, de confondre la personne et ses comportements. Alors, on va prendre un exemple simple, hein, et je le fais toujours quand j'ai un certain nombre de fils devant moi, c'est-à-dire que je vois beaucoup de gosses de terminale tout au long de l'année, il y a toujours moitié filles au moins, et je dis aux filles, mesdemoiselles, levez le doigt celle qui aimerait être violée. Tiens, c'est curieux, il n'y a jamais un doigt qui se lève. Jamais. Vous voyez, ça fait des années que je fais ce test, jamais un doigt se lève. Ce qui veut bien dire que dans l'esprit de tout le monde, le viol est intolérable. Ah ben, il faut le dire. Parce que si le viol est intolérable, ça veut dire qu'il y a des comportements intolérables. Il y a le viol, la pédophilie, mais il y a aussi le vol à main armée, il y a toutes sortes de comportements qui sont intolérables. Donc il ne faut pas dire en permanence à nos jeunes qu'il faut tout tolérer, parce que ça les contamine très profondément, beaucoup plus que vous ne le croyez. C'est parce que c'est pervers sur le plan intellectuel. C'est les personnes, et d'ailleurs, c'est tellement vrai que cette confusion est perverse, c'est que si vous dites aux jeunes, en revanche, qu'un gars qui a fait les actes de pédophilie de Fourniret, qui a tué je ne sais pas combien de personnes, en prison, on lui doit le respect de sa dignité humaine, les jeunes, ils gueulent comme des putois. Alors faites le test avec Hitler, vous verrez. Mais Hitler est un monstre. Non, il a fait des actes monstrueux, c'est pas pareil. Ouais. Et je vous le dis à vos parents, parce qu'il ne faut jamais dire à un enfant, t'es un petit menteur. Il faut lui dire, t'as dit un gros mensonge. C'est pas du tout la même chose. En lui disant que t'es un petit menteur, vous qualifiez sa personne. C'est intolérable. Et il vous en voudra. Ou alors il voudra vous justifier, il continuera à voler. Puisqu'elle me dit que je suis un menteur, que je suis un voleur, ben je vais voler. Oui. Lisez le bouquin de Bruce Berger, tu finiras sur l'échafaud. Il disait que, à force d'avoir des paroles dans ce sens-là, il avait envie de faire n'importe quoi. Eh oui, on ne qualifie pas la personne. Le seul qui peut juger une personne, c'est Dieu. Et vous voyez, le temps qu'il met avant, hein, il vous laisse votre chance. Hein. Bon. Non, on ne qualifie pas une personne, on qualifie un acte. Eh bien oui, mais justement, on ne qualifie plus les actes. Et ça, c'est vraiment inquiétant. Il faut réapprendre aux jeunes, vous voyez, que toute personne est respectable, et ça commence par la politesse. Ouais, la politesse. Inconditionnellement, tu respectes les personnes et tu leur témoignes par la politesse. Ah non, je ne veux pas dire bonjour. PLG, PPUR. Réponse, PLG, PPUR. Hein? Ou alors, moi j'utilisais aussi 500 grammes de viande fraîche non désossée. Ouais, une fois j'avais les jumeaux de ma cinquième, et c'était moi qui les gardais. Les parents étaient allés faire je ne sais pas quoi, ils m'avaient confié les jumeaux, ils étaient à l'âge bête, ça arrive à tout le monde, hein. On y est tous passés. Et donc ces jumeaux qui sont des vrais jumeaux, il y en avait un qui était particulièrement gonflant, et je lui dis, Alexis, si tu continues, tu vas t'apercevoir que papy a au bout de l'avant-bras 500 grammes de viande fraîche non désossée, et tu risques de les ramasser sur le pont arrière ou sur un coin de ta figure. Alexis, dont aujourd'hui, vu son âge, on voit qu'il a une véritable vocation scientifique, a voulu vérifier. Ouais. Donc il a continué à me gonfler, il a pris les 500 grammes de viande fraîche non désossée, et comme c'est un très bon jumeau, je l'ai entendu qu'il allait prévenir Xavier en lui disant, Xavier, méfie-toi, papy a 500 grammes de viande fraîche non désossée. Et ça y est, le message est passé. Ouais. Voilà. Il faut absolument que les enfants, ouais, respectent les autres, disent bonjour, disent merci, tiennent une porte. Ouais, le respect, c'est, comme dit la grande Simone Weil, cette philosophe que j'aime beaucoup, qui est morte en 43, ne pas confondre, il n'y a pas de vie sociale sans le respect. Pas de vie sociale sans le respect. Dans la dernière encyclique de Benoît XVI, j'ai reçu les indices très clairs que Benoît XVI, qui a une culture formidable, connaît certainement Simone Weil sur le bout des ongles. Toute la séquence sur les droits et les devoirs, il y a une parenté de pensée qui est trop forte pour qu'il n'ait pas lu largement tout Simone Weil. On sait déjà qu'il a lu tout Kant, parce que dans la deuxième encyclique, il nous avait sorti un texte que personne ne connaissait de Kant. Vraiment, il fallait vraiment connaître tout Kant pour arriver à connaître ce texte. On a un pape qui est d'une culture exceptionnelle. Hein. En plus, il est humble, ce qui n'est pas désagréable quand on est cultivé, parce que vous savez que ceux qui en ont le moins, ils l'étalent beaucoup pour qu'on s'en aperçoive, mais lui, ce n'est pas le cas. Mais il a une culture exceptionnelle. Alors, deuxième fondamental de la vie sociale, c'est le respect. Troisième fondamental de la vie sociale, c'est le service. Ouais. Le bien commun ne se construit que dans la coopération de tous, hein, et non pas avec des tirs au cul, des tricheurs, des gens qui en font le moins. C'est probablement pas l'effet du hasard si, dans les sportifs de haut niveau, c'est les rugbymen qui se reconvertissent le mieux dans le monde du travail. Parce qu'ils ont l'habitude, eux, de ne pas tricher. Ouais. Si la mêlée, il y en a un qui pousse pas ou qui pousse faiblement, toute la mêlée recule. Hein. Donc, en rugby, la solidarité, c'est indispensable. Eh bien, dans la vie, la solidarité, c'est indispensable. Et il faut que les gosses apprennent ça dès le plus jeune âge dans la famille. Ouais, qu'ils mettent la table, qu'ils donnent un coup de balai, qu'ils aident à ramasser les feuilles mortes. Mais il faut que tout le monde, vous voyez, participe. Alors, il y en a qui sont plus doués pour organiser une fête, il y en a qui sont plus doués pour la déco, il y en a qui sont doués pour, je ne sais pas, la couture, etc. Mais tout le monde doit participer. Il ne faut pas qu'il y ait de tir au flanc. Et ça, tout doit être donné, vous voyez, avant l'âge de raison. Ce qui ne veut pas dire qu'on continuera après l'âge de raison à l'exiger, mais après l'âge de raison, on pourra même non seulement l'exiger, mais expliquer le pourquoi, de façon à ce qu'à un moment, les enfants puissent se le réapproprier. Et pour ça, il faut faire appel à leur intelligence, dont le leur expliquer. Mais il faut avoir commencé avant, parce qu'il y a en quelque sorte des habitudes, oui, je vais presque dire des réflexes pavloviens, ouais, de respect de la vie sociale. Alors, deuxième champ d'action, non moins important, et justement c'est ce que j'ai mis en premier dans mon bouquin, parce que c'est ce qui fait le plus défaut aux gosses qui font la crise d'adolescence, c'est « je m'aime ». Ouais, l'enfant doit être habitué à s'aimer, au bon sens du terme, c'est-à-dire je me connais, je ne me compare jamais aux autres, le Seigneur m'a fait comme ça, j'ai des talents mais j'ai aussi des limites, l'important c'est que je développe mes talents, hein, et ça va à l'encontre de trois siècles de jansénisme qui a pourri la France, hein, où on dit aux gosses, corrige tes points faibles, corrige tes points faibles, corrige tes points faibles. Au lieu de dire, développe tes points forts, développe tes points forts, développe tes points forts. Si vous lisez aussi bien les deux épîtres de Saint-Pierre que certaines épîtres de Saint-Paul, vous verrez que ces deux apôtres, ces deux grands apôtres, passent leur temps à dire, dans l'Église, utilisez les gens pour ce qu'ils savent faire. Non d'un chien. Si dans les diocèses on faisait ça avec les prêtres, il y aurait une efficacité qui grimperait nettement. Le nombre de prêtres que j'ai vu utiliser à contre-emploi, dans ma vie, c'est fabuleux. Hein. Mais c'était la tradition janséniste, ça commençait dès le séminaire. Si tu fais ça parce que ça t'emmerde, qu'est-ce que c'est bon pour toi, ouais. Ben non, on est comme on est, voyez, et il faut toujours au contraire, pour le service des autres, développer ses points forts. Parce que c'est ce qui se développe le mieux. Si on corrige ses points faibles, on dépense une énergie comme ça pour un rendement merdique, hein, et si on cherche à développer ses points forts, on dépense une énergie très raisonnable pour un rendement comme ça. Et résultat, on a des vrais points forts qui nous servent à la fois à nous pour avoir confiance en nous, et un gosse qui n'a pas confiance en soi, je vous garantis qu'il fera une très mauvaise adolescence. Il sera contaminable par n'importe quel groupe de tordus, il sera influençable, etc. La confiance en soi, c'est capital. Si le même gosse d'ailleurs devient adulte, il sera également emmerdant. Par exemple, jamais un gars qui manque de confiance en lui est capable de commander. S'il n'a déjà pas confiance en lui, il ne faut pas qu'il fasse confiance aux autres. Hein? Bon. Donc la confiance en soi, c'est capital. Alors, c'est dès le début, dès le passage à l'âge de raison, qu'il faut commencer à travailler le gosse sur ce problème de la connaissance de soi et du développement de ses talents. C'est capital. Parce que quand il va passer un peu plus tard à ce que j'appelle la phase VO, hein, qui est la première phase de l'adolescence, c'est-à-dire celui où il est mal dans sa peau, il y a des boutons plein la gueule, son corps grandit, il est mal, etc. Il faut qu'il ait déjà toute l'amorce de la confiance en soi. Il faut qu'on n'ait plus qu'à faire des piqûres de rappel. Ça veut dire que dès le départ, il faut intéresser le gosse à lui-même, hein, et le comparer en permanence à lui-même pour voir s'il progresse. Et donc c'est pour ça qu'il faut le pousser sur ses points forts, parce que là, c'est sûr qu'il progressera. Et il y aura des retombées sur les points faibles. Je pourrais vous raconter des anecdotes comme ça, de gosses à qui on a changé la vie en disant ça, simplement ça aux parents. Cessez de l'emmerder avec ses points faibles, poussez-le sur ses points forts. Dans 6 mois, vous allez commencer à voir la retombée sur les points faibles même. Pourquoi? Parce que le gosse aura pris confiance en lui. Qui va devenir exigeant pour lui parce qu'il sait qu'il peut faire des progrès. Et il sait qu'il peut faire des progrès parce qu'on l'a mis d'abord à faire des progrès sur les domaines où il peut faire des progrès tout de suite. Ouais. Les parents font général le contraire, les profs n'en parlons pas. Hein, je dis aux profs quand je rencontre des profs, dans chaque matière, vous devriez fixer le minimum syndical en dessous duquel le gosse aurait un handicap. Car c'est la seule chose qu'il faut faire sur les points faibles. Le minimum pour pas que ce soit un handicap. Et c'est pour ça qu'il faut parfaitement se connaître. Et c'est pour ça que la connaissance de soi, c'est capital. Un gosse qui ne se connaît pas lui-même, il va tout le temps à se comparer aux autres, etc. Et ne comparez jamais à votre gosse à un autre, que ce soit un gosse de la famille ou un gosse de l'extérieur. Ne compare jamais un gosse à un autre. Car chaque gosse, comme toute créature humaine, est incomparable. Et que Dieu l'a fait volontairement incomparable. C'est un être unique. Pour Dieu n'a que des enfants uniques. Il y en a des milliards, mais c'est tous des enfants uniques pour lui. Donc ne faisons pas, nous, de nos enfants, des gosses à comparer aux autres. Un gosse, ça ne se compare pas. Deuxième élément important, dans notre époque, le fond de commerce des médias, c'est la trouille. Et par conséquent, il faut habituer nos enfants à considérer l'avenir, qui est bien sûr incertain, et qui comporte, c'est évident, de réels dangers. La preuve, c'est que la seule chose que je sache en vivant, c'est que je crèverai. Donc il y a bien de réels dangers. Hein. Oui, mais ça comporte aussi des opportunités. Ce qui veut dire que les gens qui ne prennent jamais de risques, ben, ils n'ont jamais de chance. Hein, les gens qui me disent, j'ai jamais eu de chance. Oh, c'est pas vrai, mon coco. Elles sont passées à portée, les chances, mais tu les as pas prises parce que c'est des risques. Et oui, le risque, ça veut dire à la fois des opportunités et des dangers. Et donc si je vis dans l'émotionnel, voyez, je recule devant le risque. Donc c'est bien dans le rationnel qu'il faut apprendre à aborder l'avenir. Et en se posant des questions, celui qui a inventé le questionnement, ce n'est pas le dernier des crétins, il s'appelle Socrate, vous voyez, il a vécu il y a 2300 ans, mais ce n'est pas une brêle. Hein. C'est lui qui a inventé toute la réflexion, voyez, basée sur le questionnement. Le questionnement, c'est prodigieux. Ça vous fait passer automatiquement du cerveau droit au cerveau gauche. Ouais. Vous sortez de l'affectif et de l'émotionnel, vous rentrez dans le rationnel. Et dans le rationnel, alors, vous pesez les choses. D'ailleurs, l'esprit critique, c'est krino en grec, ça veut dire le peser. Hein. Apprendre à peser les choses. Ouais. Donc, si je vais là, est-ce que je maximise mes chances ou est-ce que je maximise mes dangers? Ben oui, c'est comme ça, je raisonne. Ouais. Et ça m'apprend à faire des choix. Vous voyez, personnel, non dans l'émotionnel et non dans la trouille. Au passage, dans ce deuxième domaine-là, c'est également le père qui est l'élément prépondérant. Dans le premier cas, parce qu'un compliment du père, ça pèse pour l'enfant 100 fois plus que le compliment de la mère, parce qu'un compliment de la mère, le gosse se dit, elle dit ça parce qu'elle m'aime. Qui c'est le vieux qui a fait un compliment? Je peux vous dire que dans la tête du gosse, ça a un poids beaucoup plus grand. Bon. Et puis de la même manière, quand le gosse flippe, maman flippe avec lui. Donc c'est le père qui doit rassurer l'enfant face aux réalités risquées de la vie. Ouais. Donc dès que maman sent que le gosse est inquiet, elle le balance au père. Tout de suite. Ouais. Parce que la maman est la meilleure diagnostiqueuse. Hein. C'est ça son rôle dans l'éducation. Ce n'est pas une éducatrice, c'est une diagnostiqueuse. La maman est la meilleure diagnostiqueuse et la plus mauvaise thérapeute. Parce que c'est à la fois sa richesse de sensibilité qui en fait la meilleure diagnostiqueuse, et c'est sa richesse de sensibilité qui en fait la moins bonne recadreuse. Parce que recadrer un gosse, ça demande de ne pas avoir une sensibilité à fleur de peau. Quand ma femme me disait un tel ou un tel a besoin de toi, je discutais même pas, je savais qu'elle avait raison. Mais je m'en occupais. Et quelquefois, d'ailleurs, m'en occuper, c'était fermer la porte, envoyer ma femme faire des courses, parce que il valait mieux que je ne sois pas le témoin d'une petite explication entre quatre yeux qu'on avait avec le ou la impétrante. Voilà. Bon. Donc, deuxième élément important, vous voyez que la confiance en soi, c'est lié à mon passé. Si je relis mon passé en y voyant que des échecs, et non pas à la fois des échecs dont j'ai tiré des bonnes leçons et des succès dont j'ai tiré également des bonnes leçons, et si j'ai peur de l'avenir, je ne peux pas me construire dans le présent. Et dans le présent, il faut pousser l'enfant à l'autonomie. Ce qui n'est forcément pas la tasse de thé de maman. Regardez les femmes qui commencent à déprimer dès que le dernier poussin quitte la couvée. Hein, c'est normal. Hein. Donc ne demandons pas aux mères de pousser l'enfant à l'autonomie, et donc d'ailleurs à la prise de risque, hein, parce que l'autonomie implique toujours une prise de risque. Je suis très frappé, vous voyez, j'étais frappé quand je dirigeais l'école de chimie de Lyon, de voir des fois des parents accompagner des gamins ou des gamines qui étaient déjà bac plus 2, et qui 3 ans après allaient avoir, commencer à prendre des responsabilités dans une industrie, qui comporte parfois de réels dangers, comme Churchill le disait, de la guerre. Hein. La chimie, ça comporte de dangers. Je voyais arriver papa et maman avec Fifi sous Fifi pour voir si la bouffe du RU était bonne, pour voir si la chambre était correcte, etc. Foutez-leur la paix, vous vous rendez compte, ils sont déjà bac plus 2, vous êtes encore en train de leur tenir la grappe, là? Non mais oh ah, c'est ça, les gosses, ça doit être autonomisé le plus vite possible. Ouais, l'autonomie, c'est fondamental. Alors l'autonomie, c'est pas faire ce qu'on veut, hein. C'est ce qu'il faut expliquer dès l'âge de raison aux enfants, tu vois. Il va falloir que tu prennes de plus en plus d'autonomie, alors ne t'imagine pas que l'autonomie, c'est de faire ce que tu veux. L'autonomie, c'est de faire ce que tu dois, comme tu veux, sauf ce qui est interdit. Et vous voyez que l'interdit a une valeur pédagogique formidable, parce que l'interdit, ça sépare au couteau l'erreur possible de la faute. On n'engueule jamais un gosse pour une erreur. Sinon, il prendra jamais d'autonomie. C'est de faire ce qu'on doit comme on veut. Ben, comme on veut, on arrive de faire des erreurs. Et on progresse beaucoup par essai erreur. Ah oui, mais par contre, ce qu'on doit, comme on veut, sauf ce qui est interdit. Alors si tu transgresses, par contre, un interdit, t'en prends PLG, PPUR. Ben, c'est pour ça que c'était sur l'affiche, parce qu'il faut que le gosse comprenne très clairement que chaque fois qu'il transgressera un interdit, hein, mais vous voyez, cet interdit lui laisse une zone de liberté énorme. Est-ce que vous avez regardé les 10 commandements? Je ne vais pas faire d'interro, hein, mais vous verrez, il y a un certain nombre de commandements qui sont positifs, qui vous disent dans quelle direction il faut aller. Il y en a quelques-uns qui sont négatifs et qui encadrent votre zone de libre arbitre, hein, et vous avez donc une liberté formidable de choix. C'est pour ça que les saints sont aussi différents. Ils font tous ce qu'ils doivent, comme ils veulent, en choisissant leur chemin, en tenant compte de leur charisme. Et c'est pour ça qu'il y a autant de saints différents. Donc les enfants, il faut qu'ils sachent qu'il y a des barrières à ne pas franchir, qu'il y a des choses à atteindre, puis maintenant tu fais tes armes. Comme tu veux, alors tu feras des boulettes de temps en temps, ça n'a aucune importance. Par contre, si tu transgresses, là, PLG, PPUS, bon, les choses sont claires. Alors, troisième domaine. Alors, vous voyez que dans ces 2 grands domaines, ça fait déjà 6 fondamentaux, c'est le père qui est l'acteur majoritaire. Ses partenaires, ce sont l'école, et ceux qui doivent aller voir les profs, c'est les pères. Pas les mères. Non, les profs se plaignent à juste titre de voir toujours les mères venir les voir. C'est les pères qui doivent aller. Ouais. Parce que la mère va y mettre de l'affectif. Alors soit on va lui faire des compliments pour son gosse, elle arrivera avec une tête comme un porte-avions et elle va mal élever le gosse, soit on critiquera son gosse, elle en fera un drame. Hein. Les pères, non, beaucoup moins. Le père, il veut des choses claires, de façon à avoir une stratégie de cadrage de son enfant. Donc c'est les pères qui doivent aller voir les profs. Moi j'ai toujours été voir les profs de mes enfants. D'ailleurs, j'entendais régulièrement vos enfants mauvais caractère. Et je disais, oh, quel plaisir vous me faites. Je regardais avec des yeux comme ça, je dis oui. Puisque vous me dites qu'il a mauvais caractère, c'est qu'il a du caractère tout court. Le mauvais, on va s'en occuper, mais je préfère qu'il ait du caractère que d'être une nouille, comme il y en a trop. Hein, non, bon, ils ont mauvais caractère, parfait. On va s'occuper du mauvais, mais le caractère, il est là, parfait. C'est bon. Les autres partenaires, c'est bien sûr les mouvements de jeunesse. Ouais, c'est le sport, notamment le sport collectif, et le sport individuel. Ils ont tous les deux leurs vertus. Le sport individuel apprend l'enfant à exiger beaucoup de lui-même. Le sport collectif lui apprend les vertus de la solidarité, de la coopération. Donc les deux ont de l'importance. Donc il y a des partenaires, ouais, des partenaires éducatifs. Et puis il y a la parentèle, il y a... Mais vous voyez, les grands-parents ne sont pas chargés d'éduquer les enfants, mais ils peuvent donner des conseils, ils peuvent donner des avis, ils peuvent poser des questions importantes, il ne faut surtout pas se gêner. Donc il y a tout un environnement qui peut aider. Mais c'est quand même le couple avec la mère diagnostiqueuse et le père qui mène la baraque éducative que les enfants sont le mieux traités. Alors reste le troisième domaine, qui était d'ailleurs dans l'interrogation de la fiche, qui est important, c'est le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est ce qui permet le bonheur. Et, ce que j'ai, les six fondamentaux questions, on peut dire, c'est des conditions nécessaires au bonheur. C'est des conditions. Mais vous savez, c'est comme en maths, c'est des conditions nécessaires et non suffisantes. Hein. Alors, c'est des conditions nécessaires et non suffisantes. Il faut transmettre aux enfants, et là, ce n'est pas spécialement le père, c'est le père, la mère, l'église, les professeurs, notamment dans une école catholique qui devrait contribuer largement à ce sens de la vie. Et ce sens de la vie, moi, le jour où j'y ai réfléchi, vous voyez, on peut écrire là-dessus ou c'est défendu?
On peut.
Bon.
Avec le whisky.
Ça s'efface, je veux dire, par là.
Oui.
Parce qu'il y a des crayons, ça ne s'efface pas. Alors un jour, je réfléchissais à ça, comme je dessine comme une patate, j'ai fait une patate d'ailleurs, c'était la terre, et puis j'ai mis un petit bonhomme sur la patate, vous voyez, et je me suis dit, où ce petit bonhomme peut-il trouver un sens à sa vie? C'est un être de relation. Alors, où il peut trouver de la relation? Ben, avec la planète elle-même, avec les autres petits bonshommes qui sont là à côté de lui, et puis avec le tout autre, qui s'appelle Dieu. Et je vais voir que c'est ça qui me donne les trois domaines qui donnent vraiment un sens à ma vie. Alors on va commencer par le bas. Je dis souvent c'est la fusée du bonheur, vous voyez. La fusée du bonheur, eh bien, en bas, elle a un étage qui la propulse. C'est la relation avec la planète. Ça s'appelle le travail. L'homme est le seul être vivant qui travaille. Les animaux ne travaillent pas. Ils ont un instinct qui ne bouge pas, qui leur permet, dans un environnement donné, d'arriver à conserver à la vie et la transmettre. Et c'est les deux seules choses qu'ils font, les animaux. Je conserve ma vie, j'ai un instinct de conservation et un instinct de transmission de la vie. Et pour ça, il faut que je sois dans un certain environnement. Si cet environnement disparaît, je disparais, ou alors je migre pour essayer de retrouver le même environnement. Exemple. Lisez le bouquin de Courtillot, excellent, Nouveau voyage au centre de la Terre, il y a 65 millions d'années, 60% des espèces vivantes sur la Terre ont disparu. Heureusement pour nous, dont les dinosaures. Sinon, ça serait Jurassic Park tous les jours, qui ne serait pas forcément la jour. C'est-à-dire que l'animal est incapable de s'adapter. Quand vous entendez les écolos être à la fois évolutionnistes et parler de l'environnement comme il en va, ils ne se rendent pas compte, c'est con, qu'ils sont en contradiction avec eux-mêmes. Hulot, alors c'est le top du top, c'est le top de la bêtise humaine, montée par les médias. Vous voyez, si l'animal pouvait évoluer, il s'adapterait à tout, ben non, il ne peut pas, il crève. Ah oui, l'homme, il est différent, vous voyez, il arrive à vivre avec moins 65 en hiver à Vercoyance, et plus 55 à Djibouti, en été. Et quand il y a eu les dissidents qui ont été plus ou moins en partie relâchés par Khrouchtchev au moment de l'année de la désalinisation, ça n'a pas duré longtemps, ils sont descendus justement de Sibérie orientale où ils pelaient le jonc, hein, à l'Ouzbékistan où je suis allé. Moi j'y suis allé en juin, donc il n'y avait que moi, il y avait que plus 45, mais en août il y a plus 55 comme à Djibouti. Hein. Mais ils se sont adaptés. Parce que l'homme, par son travail, il change les textiles, il change la clim, il crée la clim, il change sa manière de se développer, de se s'habiller, de manger, etc. Il est adaptable. Il est adaptable parce qu'il travaille. Donc le travail, ça donne un sens à la vie parce qu'on se rend compte qu'on est utile et que l'homme a un besoin d'utilité sociale. Et le travail, ça donne un sens à la vie. C'est le premier étage de la fusée du bonheur. Le travail. Et ça propulse la fusée. Alors le deuxième étage de la fusée du bonheur, ça s'appelle l'amitié. L'amour d'amitié, c'est-à-dire cette capacité qu'a l'homme du don de soi. Et comme dit Benoît XVI dans sa première encyclique, Dieu est amour, il dit, ce n'est pas que l'amour possessif soit à exclure, il fait partie aussi de l'amour. Mais en grec, il y a trois verbes pour dire aimer, tandis qu'en français, on dit aimer aussi bien pour les frites que pour l'autre. Qu'on aime d'un amour tendre, hein, on dit j'aime les frites, et puis on dit j'aime Géraldine, etc., avec le même verbe. Tandis qu'en grec, il y a trois mots. Et c'est dans l'équilibrage de ces trois mots que on a un sens à la vie. C'est quand on met en tête agapé, ouais, le don de soi, en deuxième, philia, l'échange, on dirait aujourd'hui, en langage d'aujourd'hui, gagnant-gagnant. Et d'ailleurs, au XVIIe siècle, on disait avoir commerce avec une femme. Commerce, ça veut dire qu'on échange. Ouais. Filier, on échange. Gagnant-gagnant. Et puis Eros, où l'autre est un bien pour moi et je le désire pour moi, le pape n'a jamais dit que c'était mauvais, il a dit qu'il faut les mettre dans l'ordre, simplement. Quand on met dans l'ordre ces trois verbes, ouais, qu'on va du don, au contraire, à la possession de l'autre, le désir possessif, hein, et au milieu, cet échange fructueux pour les deux, quand on les met dans l'ordre, alors ça donne un sens à la vie. Et puis Dieu, c'est le seul qui répond à deux questions que nos enfants se posent sans arrêt, hein, et donc c'est la tête chercheuse de la fusée, parce qu'il répond à deux questions que les enfants se posent sans arrêt, le mal et la mort. Le mal qui soit subi ou qui soit commis, vous voyez, leur pose un réel problème. Exemple. Il y a 5 ans à peu près, j'étais à Nantes, j'étais dans un amphi, j'avais 180 ou 190 terminales, moitié filles, moitié garçons. Je leur fais un topo centré uniquement sur le bonheur. Je leur dis les mêmes choses qu'à vous, mais en démarrant sur le sens de la vie et le bonheur. Je les laisse se détendre 10 minutes pour préparer les questions, parce qu'il faut qu'ils les préparent par écrit, parce qu'à cet âge-là, ils ne poseront jamais une question importante pour eux par oral, à cause du regard de l'autre. Donc ils ne poseraient que des questions niaises ou provocatrices, ce qui serait intéressant pour personne. Tandis que par écrit, je peux vous dire qu'ils posent des questions qui pèsent leur poids. Et comme je reçois un paquet de questions comme ça, et que j'ai de nouveau à peu près 3 quarts d'heure, ou 50 minutes pour y traiter, j'ai pas le temps de les trier, ouais, donc je réponds au fur et à mesure, de temps en temps je dis, ben, cette question a déjà été traitée à tel moment, et puis je réponds comme elles viennent. Et ce jour-là, dans les papiers que j'ai un premier papier que je ne lis même pas, parce qu'il me fait plutôt marrer intérieurement, c'est une fille qui me dit, quand vous verrez votre petite fille Faustine, vous lui ferez toutes mes amitiés de ma part, parce que nous étions très compines avant que je déménage à Nantes. Bon, alors ça c'est pas une question, donc je mets en dessous, je dis oui, j'y répondrai tout à l'heure, pour noyer le poisson. Et puis, 3 minutes plus tard, alors j'ai la question avec un grand cul, parce qu'elle pèse son poids. La question, elle est également écrite par une fille. Ça se voit tout de suite au papier, c'est bien écrit, il n'y a pas de faute d'orthographe, il n'y a pas de tâche, c'est pas un torchon, donc on sait que c'est une fille. Bon. Et cette fille, elle dit, j'ai perdu mon frère il y a 4 ans. Il est mort dans mes bras, d'une overdose d'héroïne. Je savais qu'il se droguait, je n'en avais rien dit à personne. Depuis, ça pèse sur ma conscience, qu'est-ce que je dois faire? Et vous voyez qu'elle pose très bien les trois problèmes. Le problème du mal subi, la détresse qu'elle a d'avoir perdu son frère, le problème du mal commis par son frère qui se faisait du mal, mais elle lui a fait du mal en pratiquant la loi du silence, qu'ils pratiquent tous, les jeunes, ce qui permet beaucoup d'overdoses, comme ça, mortelles, hein. Et puis elle pose le problème de la mort devant laquelle les philosophes n'ont pas de réponse, ouais. Où ils se durcissent comme les stoïciens, où ils se disent goûtons aujourd'hui parce que demain on peut être sous à têter les pissenlits par la racine, mais ils n'ont pas de réponse. Ouais. Dieu donne une réponse à la mort, puisqu'il dit c'est l'entrée dans la vie éternelle. Il donne une réponse au mal subi. Il vous console et il vous cicatrise. Il donne une réponse au mal commis dans la confession. Il vous pardonne. Vous voyez, il répond à tout. Les psys répondent à rien. Or cette fille, ça fait 4 ans que ça dure, elle a dû être concernée par toutes les cellules d'action psychologique. Voyez, aujourd'hui, dès qu'il y a un pet de travers, on met en place une cellule de soutien psychologique. Hein. Bon, eh bien oui, et ça n'a rien fait. Ouais. Donc c'est finalement, c'est bien Dieu le seul, voyez, qui est à l'étage supérieur de la fusée, qui la guide. Parce que le problème du mal et le problème de la mort sont des problèmes incontournables, et que si nos jeunes n'ont pas des réponses solides dans ce domaine-là, ils sont eux-mêmes en danger mortel. Vous voyez, c'est pour ça que le suicide des jeunes a autant monté. C'est ce qui m'a frappé quand je suis arrivé jeune prêtre dans mon diocèse, et que mon évêque m'a confié la pastorale des gens qui ont perdu un enfant. Que je me suis aperçu que la cause première de mortalité, en train de rattraper les accidents de la route, de voiture et de mobylette, c'était tout simplement le suicide. Et puis que j'ai eu un de mes copains de promotion, qui un jour m'a appris, je peux vous dire avec des sanglots dans la voix, que sa fille s'était pendue, et qu'ils avaient reçu un papier où elle disait « J'ai aucun problème sentimental, j'ai aucun problème économique, j'ai aucun problème universitaire, mais j'ai aucun sens à ma vie. » Et comme m'a dit mon copain, elle avait ce qu'elle voulait. Oui, mais elle avait. L'avoir, ça ne donne pas de sens à la vie. C'est dans l'ordre de l'être, le sens de la vie, c'est pas de l'avoir. Alors, dans mon être, le travail me donne un sens à ma vie parce qu'il me donne un sens que je suis utile, que je ne suis pas le dernier des derniers dans la société. L'amour donne un sens à ma vie parce que, comme on le dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et puis Dieu donne un sens à la vie parce qu'il répond à des questions que tout le monde se pose et pour lesquelles on n'a pas de réponse. Voilà. Et bien vous pouvez poser des questions maintenant. J'ai tenu mon temps. Et je vais pouvoir me désaltérer la glotte.
Merci beaucoup. Alors voilà, donc on a vu les trois crises et fondamentaux dans l'éducation. Est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous a envie de réagir? Ça peut être une conviction, quelque chose aussi avec lequel vous n'êtes pas d'accord, une question. Le plus compliqué étant toujours la première personne qui pose la question.
On n'est qu'à passer à la seconde.
Voilà, vous avez raison.
Pas tous en même temps, simplement.
Il y a toujours les problèmes de l'interdit, puisque vous dites qu'il faut fixer des interdits, mais quand on est là, on se demande toujours où est la...
L'interdit, c'est l'interdit de toutes choses qui ont un inconvénient sérieux, important, voyez, soit dans l'ordre moral, soit dans l'ordre social. C'est ça l'interdit. Si ça perturbe la société, ou si ça perturbe la vie morale de l'enfant, il faut qu'il y ait un interdit. Ça ne veut pas dire qu'il ne transgressera pas. quand Dieu nous donne des interdits, c'est à nous. Il n'y a pas de flic ni de policier pour eux. Hein. Les gens disent bêtement, l'Église nous interdit, et je me dis, mais elle n'interdit rien, l'Église. Elle dit c'est mauvais. Ben, c'est ça un interdit. C'est-à-dire, attention, c'est mauvais. Donc si tu transgresses ça, pour ton bien, t'en prendras PSG, PPUR. Il faut bien que le gosse comprenne que c'est pour son bien. C'est pas du tout pour le confort des parents. C'est pour ça que, comme vous avez tout à fait justement dit, il faut être vigilant dans la manière de discerner ce qu'il faut interdire. Il y a des parents qui interdisent beaucoup trop de choses. Il y a des choses qui ne sont pas de l'ordre de l'essentiel, qui sont des choses très contingentes et qui n'ont pas, vous voyez, qui n'ont pas d'inconvénients réels. Et le gosse a le droit d'avoir des goûts, il a le droit d'avoir des... Mais d'un autre côté, il faut qu'il s'habitue à manger de tout. Mais il peut avoir quelque chose qui vraiment, ouais, lui, est, il est impossible qu'il en mange. Moi, essayez de me faire manger du marron, vous verrez. C'est vous qui en prendrez plein la gueule. Il y a des choses qu'on ne peut pas avoir. On s'en aperçoit très bien. On aperçoit que les gosses, c'est pas plus caprice, vous voyez, mais qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas. Mais il faut être vigilant, vous savez, vous avez raison. Et d'ailleurs, quand on est jeune parent, en général, on interdit trop de choses. Et d'ailleurs, les aînés disent plus tard, « Ah, mais vous avez pas les petits de la même manière. » Ils ont raison. Ils ont raison. On apprend à mieux discerner ce qu'il faut interdire avec l'âge. Oui. De toute façon, il faut bien commencer. Il ne faut pas commencer, vous voyez, en ayant tellement de scrupules à interdire qu'on interdit rien. Alors, c'est ça, aujourd'hui. Le maître mot des jeunes parents, aujourd'hui, c'est « D'accord, mon chéri. » C'est pas moi qui le dis, c'est Brigelli dans... Je ne sais plus si c'est « La récré est finie » ou « La fabrique du crétin ». Il dit, c'est le grand maître avant le départ. Vous mettez d'accord, mon chéri. Ben non, on n'a pas demandé. C'est d'ailleurs déstabilisant pour les enfants de leur demander leur accord. C'est leur faire prendre une responsabilité abusive. Il y a des causes qui sont désécurisées parce qu'on leur demande en permanence d'être d'accord ou pas d'accord. Alors si c'est en plus qu'on n'a aucunement l'intention d'aller contre leur volonté, alors il ne faut pas leur dire d'accord. Lors du fait comme ça, et pas autrement.
Moi, nous avons trois enfants à la maison. Je n'ai pas lu votre livre, mais je me retrouve beaucoup, et mon mari n'est pas présent, mais je pense qu'il se retrouverait aussi beaucoup dans ce que vous avez vécu. Sauf que nous ne vivons pas dans un espace clos, même si nos enfants sont encore très jeunes. Quand mes enfants rentrent à la maison, et que je leur applique peut-être pas toutes les normes que vous nous avez indiquées, mais en tout cas une bonne quantité, j'ai en face de moi des gens qui me disent, mais maman, tu vis sur... Enfin, ils me disent, pas je suis ma garde et stupide, mais qui ne sont pas encore sur mon garde. Ça va venir. Ça va venir. Je serai ma garde et stupide. Mais ils me disent déjà des choses en me disant, maman, t'es en total décalage avec... Ma copine Charlotte, oui, mais alors je ne dis pas qu'on acquiesce ce sentiment, mais plus le temps va passer, plus on va être en décalage. Et c'est très complexe de gérer ce décalage. Et on ne peut pas mettre que nos enfants dans
le rugby. Je vais vous donner un exemple qui est très intéressant. J'ai une fille, ma seconde, qui me fait un gros compliment tous les 15 ans à peu près. Le dernier datant d'il y a 5 ans, j'ai encore 10 ans à attendre. Alors, il y a 20 ans, elle en a fait un énorme, et qui va exactement, vous voyez, dans le sens de ce que vous dites. Elle me dit un jour, je passais chez elle, elle avait déjà ses trois filles, elle devait ne pas travailler à ce moment-là, son mari n'était pas là, et les gosses étaient à l'école, et elle me dit, papa, tu veux que je te dise la meilleure chose que tu as faite pour nous? Heureusement que j'avais une chaise derrière moi. Parce qu'elle ajoute, c'est de ne jamais avoir donné d'argent de poche.
Ça m'a fait un grand sujet.
J'ai cru tomber à la renverse. Parce que je peux vous dire que quand elle avait 15 ans, j'avais la tête, mais comme un porte-avions. Hein. Bon. Mais oui, mais 15 ans après, elle me disait, t'as eu raison. Autrement dit, j'avais pas cédé. Hein, et elle me dit, t'as eu parfaitement raison. Ça nous a tous obligés à être autonomes jeunes, à prendre l'habitude de, si on voulait se payer quelque chose qui était du superflu. Parce que tu nous as expliqué que tu nous donnais le nécessaire et que si on voulait, en plus du superflu, on avait qu'à faire des gardes d'enfants, des distributions de catalogues de la redoute, etc. Bon. Et Eh bien, elle l'a reconnu, alors à 30 ans, hein, mais moi j'avais pas cédé. Hein.
Non, mais moi je suis
d'un
caractère qui ne fait pas non plus.
Voilà, alors.
Rassure, je ne suis pas très flexible.
Bon,
c'est vraiment la pire nature. Moi je ne peux pas faire en les... Chacun ses défauts.
Non, mais c'est pour dire que ça.
Mais ça, quand même très, ça fait quand même beaucoup de tension.
Ah ben, c'est évident. Oui, mais si vous voulez, de la même manière, quand l'Église dit certaines choses, hein, elle vous dit, le chrétien a toujours été signe de contradiction dans le monde dans lequel il vit.
Oui, je suis d'accord. Mais le conflit entre parents et enfants, ça peut être quelque chose aussi. Il faut qu'il garde, qu'il reste dans une certaine limite. Parce que sinon, le conflit prend toute la sphère familiale et il n'y a plus de place aussi pour l'amour et pour la tendresse.
Mais c'est vrai, si on ne fait rien d'autre avec eux, si on ne fait que leur faire des interdits, j'ai jamais dit qu'il faut faire que des interdits. Hein, il faut jouer avec ses gosses, faire du sport avec eux, il faut faire de l'art avec eux, il faut faire de leur bouton de sécarité, etc. Bon, il y a des choses à faire qui font que les enfants, justement, considèrent que les parents sont des partenaires qui méritent, vous voyez, d'être des partenaires. Mais n'empêche que ça ne les empêche pas de râler un bon coup quand on leur dit ça, niette.
Ouais,
ouais, on est payé pour tenir le coup.
Ben, je ne sais pas si on est payé.
Si, en haut.
Alors, faut que j'attende encore un peu.
Oui, c'est ça. Non, mais je crois qu'il faut... On n'a pas le choix parce que l'enjeu est tel, si ce n'est qu'on n'a pas le choix. Et il faut dire qu'aujourd'hui, l'enjeu est bien pire qu'il y a 5 ans.
Maintenant qu'on est dans le monde dans lequel on vit actuellement, où fixer la limite entre justement se sauvegarder dans un cocon un peu fermé et s'ouvrir au monde? Parce que par exemple, on voit beaucoup d'écoles très fermées.
Oui, oui.
Est-ce que c'est la panacée?
Non, c'est pas la panacée, mais je crois que là, c'est là où il faut savoir que chaque enfant, je l'ai dit, est un être unique. Et que vous ne traiterez pas ce problème du choix de l'école de la même manière pour les enfants. Il y a des enfants qui ont besoin d'avoir un truc protecteur. Puis d'autres, au contraire, vous les mettez, ils sont rapidement suffisamment musclés, au contraire, vous les mettez dans un domaine, dans un environnement qui est plutôt hostile, ça décuple leur force. Ça décuple leur force. Oui, mais à quel âge? Il y en a qui sont matures plus tôt, et d'autres beaucoup plus tard. Autrement dit, plus un gosse est mature tard, moins il a confiance en lui, plus il a besoin d'un cocon protecteur.
Et si on le met dans un cocon protecteur trop longtemps, un jour il va tomber des nues.
Attention, protecteur ne veut pas dire ni naïf, ni ignorant de ce qui se passe à l'extérieur. Attention. Et une grosse différence entre élever les enfants en leur disant que le monde est comme ça alors qu'il n'est pas comme ça, et leur dire... un petit chrétien sa vie comme ça, mais il faut savoir que c'est un signe de contradiction par rapport au monde et que ça a toujours été le cas. Ouais, parce que pensez à nos premiers chrétiens dans le monde romain, où l'infanticide est classique, hein, où les mœurs sont en train de partir en Javel, etc. Et les chrétiens sont à la fois des bons citoyens de Rome, hein, on en trouve dans les légions, on trouve dans les fonctionnaires de l'empereur, etc. C'est des bons citoyens, donc ils sont dans la vie sociale parfaitement intégrés, mais ils disent certaines choses, non possumus, nous ne pouvons pas. Et ils vont quelquefois martyrs. Et des légions romaines entières décimées, hein, exécutées, des légions entières, hein, parce qu'elles étaient chrétiennes. Et qu'à un moment, pour faire un exemple, l'empereur les a liquidés. Ça a duré jusqu'en 321.
C'est pour les enseignants. C'est pour les enseignants. C'est pas non plus un choix facile à faire que d'enseigner dans un établissement public ou privé sous contrat, de forger des bons petits citoyens écolos, parce qu'aujourd'hui c'est ça, dans les... Bon, je parle pas du primaire, parce que je connais pas trop, mais dans le collège et le lycée, c'est ça. Donc, voilà, quelle est l'alternative du prof? Rester là-dedans, s'essouffler, parce que c'est usant, c'est fatigant aujourd'hui quand même de
travailler. Ce qu'il faut leur montrer, c'est le danger, l'absurdité du politiquement correct. C'est-à-dire de la pensée unique. La pensée unique, c'est en train de démasculer toute une génération. Hein. On veut des gens lisses, hein. On veut des gens qui n'apportent plus rien, plus créatifs du tout, puisque le principe du politiquement correct, c'est qu'il faut éviter tout ce qui pourrait, soyez au conditionnel, blesser, on est en termes de ressenti, des gens qui pourraient se sentir exclus ou traités comme une minorité, etc. Autrement dit, c'est aussi con que le principe de précaution de Chirac, quoi. C'est le top de l'absurdité, quoi. Bientôt, pour aller faire pipi, vous serez obligé de remplir un fait par 11 exemplaires. Voyez, on est en train de tomber sur la tête, quoi. Et
sur ce sujet, il y a les livres de Jean Sevilla.
Tout à fait. Il réagit contre le politiquement correct. Ouais. La pensée unique, alors, c'est né aux États-Unis, hein. Ça a rentré dans les campus en 70, hein, on connaît maintenant la genèse, hein, et Harvard notamment commence à développer le fait qu'il faut éviter les mots méchants, l'important c'est pas de bien penser, c'est de mieux penser. Entendez mieux, c'est-à-dire au sens véritablement sensible. On est dans l'affectif si on peut. Il faut éviter, ouais, le Christ dit, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais la division. Parce que qu'est-ce qui change les choses? C'est la vérité. Et la vérité, elle tranche entre le faux et le vrai. D'où la dernière encyclique de Benoît XVI, Caritas in veritate. Il n'y a pas d'amour si on n'est pas dans le vrai. C'est pas de l'amour, il dit, c'est du sentimentalisme. Moi je dis c'est de l'affectif si on peut, mais vous voyez que le terme est à peu près le même. C'est pour ça qu'il faut être fidèle à cette ratio foi et raison. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans la foi, ils sont dans la sensibilité. Et d'ailleurs, ça ne tient pas longtemps. Quand la foi est uniquement dans la sensibilité, ça ne tient pas longtemps. D'où la très belle encyclique de Jean-Paul II, fidèle cette ratio. La foi et la raison. Tout le monde a volé dans les plumes de Joseph Ratzinger quand il en a parlé à Ratisbonne. C'est Jean-Paul II qui l'avait dit bien avant lui. Oui. Il a repris simplement le même langage, c'est d'ailleurs le langage de tous les philosophes un peu sérieux. La foi ne peut être que liée à la raison. Elle est au-dessus de la raison, mais elle répond à des questions que la raison se pose, et elle ne peut se structurer en nous que par la médiation de la raison. S'il n'y a pas la raison, ce n'est pas de la foi, c'est de la sensiblerie religieuse. Le cardinal Moreira Neves, que j'ai rencontré en 99, me disait au Brésil, mais des vocations, on en a. Les flopper, on n'arrive pas à en faire des prêtres. Parce que toutes ces vocations, pour la plupart, sont issues, hein, de familles monoparentales, où la maman ayant été plaquée, s'est jetée dans la religion avec une parfaite sensibilité, en plein d'affectif. Le gosse a têté ça sur les genoux de maman, il est devenu admiratif de ça, il veut être prêtre, on n'arrive pas à en faire un prêtre. Parce qu'ils sont pas matures, et ils sont incapables de dire non. Et Jean-Paul II avait dit ça dans Pastores d'Amor Vobis, il avait dit un prêtre, c'est quelqu'un qui est capable de dire non. Donc le premier élément de sa formation humaine, de sa formation de prêtre, c'est une formation humaine. S'il n'est pas costaud, il va être balayé. Mais dans la vie, c'est pareil pour nos enfants. Nos enfants, s'ils ne sont pas costauds, ils vont être balayés. Donc il faut les muscler spirituellement, intellectuellement et moralement. Et culturellement, nous dit Jean-Paul II, et nous l'aurons dit actuellement Benoît XVI. Culture très importante. La culture, ça permet, ça l'aide au discernement. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'être un intellectuel pour être intelligent et cultivé. Quand j'étais en train de perdre ma femme, j'étais dans un groupe de prière, hein. Il y avait dans ce groupe de prière une portugaise qui s'appelait Maria. Je suis sûr qu'elle n'avait pas le niveau du certificat d'études. Mais j'ai rarement vu une femme aussi intelligente. Et je lui ai dit à plusieurs reprises. Voyez, un discernement. Vous auriez mis le théologien le plus tordu en face d'elle, il n'aurait pas fait dévier d'un iota de la sûreté de sa foi. Elle avait, comme on dit, le sens catholique. Voyez, elle pensait juste. Je ne suis pas une intellectuelle du tout. Vous êtes intellectuel, regardez le nombre d'intellectuels qui ont été piégés par les sectes. Il y a eu une fois une émission de la marche du siècle sur les sectes. Les 7 était bourré de bac plus 8, bac plus 10, bac plus je ne sais pas combien. Hein. Le bon sens, hein, c'est indispensable pour l'intelligence, donc c'est des intellectuels sans bon sens. Et il faut tenir loin. Contre vent et marée, et je reconnais que l'environnement n'est pas favorable. Oui, c'est une bonne question, hein, parce que c'est une excellente question. Et puis l'autre aussi sur les écoles, c'est une excellente question. Je viens de faire un premier article sur la question, justement, pour dire... Alors, là où je suis formel, c'est pour le primaire, je dis, de toutes les façons, il faut pédagogiquement un primaire localisé. Qu'il soit sans contrat, avec contrat public ou privé, les écoles publiques ont fait de la bonne pédagogie. Marc Lebris, qui est... au départ trotskiste, etc. Et il a rétabli dans son école le contraire de ce qu'on lui avait appris à l'UFM. Quand il s'est aperçu, parce que c'est un homme d'une honnêteté intellectuelle totale, et tout d'un coup il s'est aperçu que toutes les sottises qu'on lui avait appris en UFM, ça faisait des gosses esquintés, dont il était sûr qu'en collège ils seraient massacrés alors qu'ils étaient intelligents. Il a fait une démonstration un jour, fabuleuse, en nous montrant... En nous disant oralement ce qu'un gosse avait mis dans sa copie, et on voyait que c'était intelligent, et en nous projetant sur le mur, la réalité, il avait dû mettre une heure et demie pour déchiffrer ce que le gosse avait mis, parce que le gosse, on ne l'avait pas appris, voyez, ni à écrire, ni à lire, ni à... Voyez, alors qu'il est intelligent, ça s'appelle un massacre de Saint-Innocent. Il y en a beaucoup de massacres de Saint-Innocent actuellement. Alors là, moi je dis pour le primaire, il faut... Là, il faut pas céder, il faut que les gosses sortent avec un primaire en béton. Après ça, ils sont déjà sauvés pour la vie d'une certaine manière. Si on était capable de donner le niveau du certificat d'études de GEDIS à tous les petits Français, nous serions le premier pays industriel du monde.
Le problème de sortir du primaire en béton, d'accord? Mais il y a quand même un problème de la formation des enseignants qui aujourd'hui
c'est ça le problème.
Empêche les enfants de sortir avec du béton du primaire.
C'est ça le problème. Le gros problème, c'est la formation des enseignants. Et on a maintenant au moins deux générations d'enseignants à qui on n'a pas appris des choses élémentaires en pédagogie.
Donc nous, notre boulot, vous le voyez comment, sachant que nous, nos enfants, ils sont dans... Voilà, des écoles avec des enseignants non formés.
Moi, je pense que une chose qui s'est faite dans l'histoire, quand on regarde l'histoire de l'Église, une chose qui s'est faite après chaque crise, c'est que l'Église a refait des congrégations consacrées ou de religieux destinées à l'enseignement. C'est-à-dire taillables et corvéables à merci pour les écoles. Et je crois que ça permettrait justement de faire une formation pédagogique moderne, c'est-à-dire tenant compte de toutes les avancées qu'on a pu faire grâce notamment à Sperry, hein, le prix Nobel en 81 sur les deux hémisphères frontaux. Et à la suite de ça, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur les mécanismes d'apprentissage et on a maintenant fait des très gros progrès sur la connaissance du rôle de l'oreille droite, de l'oreille gauche, du visuel en lien avec les deux cerveaux. Donc je pense qu'on est mûr aujourd'hui pour faire une nouvelle génération d'enseignants catholiques, mais en même temps bien formés pédagogiquement. Parce que la tentation actuellement des gens qui réagissent contre les stupidités actuelles, c'est de faire une école napoléonienne. Et hyper protégée. Et où on n'apprend pas forcément aux gosses à réfléchir. Alors, c'est comme ça. Alors, il faut apprendre aux gosses à réfléchir. Et ça, c'est capital. Moi, j'ai eu encore des maîtres qui m'ont appris à penser. Et je leur en suis, mais alors, hyper reconnaissant.
On ne soulignera jamais assez à quel point c'est vital d'apprendre aux gosses à réfléchir, parce que jamais, comme à présent, les pays riches ont été dotés de moyens d'éducation. et on ne sait plus répondre à la question que faut-il leur apprendre, mais réellement. Car de quoi sera fait le monde dans lequel ces enfants auront à vivre, à fonder des familles, à être heureux, à éduquer des enfants? Personne ne peut donner la réponse. Ce qui est certain, c'est qu'ils auront à créer sur tous les plans. Nous avons l'impression que nous avons encore quelque chose qui subsiste, mais ce qui subsiste, c'est dans notre âme, dans notre désir de bien. Du point de vue des tissus anciens, objectivement, nous avons à être attentifs et lucides. Il ne subsiste pas grand-chose. Donc une éducation bien réfléchie doit créer une robustesse bonne, enracinée dans la force vitale qui est dans chaque être donné par Dieu pour le service du bien commun. Dans l'encyclique de Benoît XVI, il reprend les très belles formules de Paul VI, le développement intégral de chaque être et de tout être. Et nous ne pouvons pas, à présent, moins que jamais, concevoir le développement de nos enfants sans songer qu'il doit aussi impliquer le développement de tout être autour de lui, et très loin. Autour de nous, c'est le monde entier à présent. Et voilà pourquoi c'est très vigoureusement qu'on doit se poser les questions d'éducation, en respectant ce qui nous a été apporté par les générations qui nous ont précédés, et en sachant aussi que nous sommes vraiment des tout petits maintenant et que nous avons besoin de nous appuyer sur le Saint-Esprit, sur le Seigneur et sur beaucoup d'entraide entre nous aussi, entre parents.
Et puis vous voyez là, et ça va tout à fait dans votre sens, le fait d'avoir mis de plus en plus de matière dans un esprit utilitariste, c'est complètement stupide puisque justement les technologies évoluent à toute allure. Donc leur donner des technologies qui sont déjà dépassées à l'école, c'est le comble de la sottise. Il faut qu'on leur apprend à penser pour qu'ils puissent recevoir les technologies nouvelles. Contrairement à ce que croient beaucoup de gens, hein, le latin et le grec, ça sert beaucoup plus aux scientifiques que le reste. D'ailleurs, j'ai écrit un article sur cette question parce qu'on a de plus en plus de gens savants, mais alors qu'ils sont cons comme des balais sur le plan scientifique. Ils raisonnent comme des tambours, ils sont savants. C'est-à-dire qu'ils savent tout sur rien, comme les Américains d'ailleurs, et dès que vous déviez d'un millimètre d'un côté ou d'un autre, ils sont paumés. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas appris à penser. Alors ils sont savants, ils savent des tas de choses. Oui, mais ils raisonnent comme des tambours. Et l'important, c'est de bien raisonner. Et on apprend beaucoup mieux à bien raisonner avec la culture classique qu'avec toute autre chose. Et le langage. C'est ce que dit Laurent Laforge. Les mathématiques, c'est d'abord du langage. Vous voyez ? Du langage logique et des principes du langage, hein, on devrait apprendre ça en philo. Et on ne le fait pas actuellement. Le travail de Gaston Isaïe, par exemple, justement, sur qu'est-ce qu'on a le droit de dire en étant sûr qu'on est dans le vrai, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire parce qu'on est sûr qu'on est dans le faux, c'est des choses qu'on ne voit pas en philo. Pensez-vous. On fait une vague histoire de la philo, on n'apprend pas à penser. La philosophie, c'est une recherche de la sagesse. Ce n'est pas l'histoire des idées philosophiques. L'histoire des idées philosophiques, c'est intéressant, mais c'est pas, ça ne prend pas à penser. Pour ça, ça peut même donner des idées fausses. Ça, tiens, je suis séduit par cette idée philosophique. Il faut au contraire apprendre à ne pas être séduit, c'est-à-dire être capable de discerner. Et c'est là où il y a un travail énorme à faire. On est à la veille d'une très grande révolution, à mon avis, dans l'école. Il faut une révolution dans l'école. On est allé dans le sens complètement inverse. Entre l'utilitarisme et le pédagogisme, le constructivisme. L'enfant doit construire lui-même son savoir. Mais c'est la plus grande stupidité qui existe. On est autonome précisément quand on a acquis un certain nombre de techniques qui permettent d'être créatifs parce qu'on peut les réaliser. Le spontanéisme 68 ans, on a vu ce homme, rien.
Et que pensez-vous de la théorie de, je crois, de Marc Lebris, justement, qui disait que tout ça avait été voulu pour créer des êtres malléables à souhait?
Ah ben ça j'en suis sûr.
Maintenant, c'est peut-être écrit par qui alors? Parce qu'ils ont...
Des financiers.
Ah ben je crois qu'il y a maintenant pas mal de gens qui ont fait le travail qu'a fait Alain Toulzat, etc. C'est-à-dire, on voit, c'est quand même très impressionnant, on voit que ça part à un certain endroit et toujours dans les mêmes milieux. Alors, qu'est-ce qui conforte ça? J'ai trouvé un jour une phrase d'un chef du Parti communiste canadien qui, dans les années 60, faisait à peu près 0,5% des voix aux élections. Donc, vous voyez, il était sûr qu'il n'y avait aucune possibilité d'émerger par la voie électorale. Et il disait, je vois que nous sommes en train de gagner parce que les gens adoptent notre langage et notre manière de penser, la manière dialectique.
Donc c'était des gens désintéressés qui faisaient ça pour les générations futures, pas pour eux-mêmes quand même. Parce que, voilà.
Non, c'est des gens qui ont vraiment envie de pervertir le monde, vous voyez, et qui s'y attaquent délibérément.
Pour les générations futures, de toute façon, pas pour eux.
Bah, de toutes les façons, rappelez-vous, le discours des marxistes, c'était... c'était toujours pour le bien-être futur. Puisqu'il y a des gens qui disaient, on nous parle sans arrêt d'omelette, mais on voit des œufs cassés, mais pas beaucoup d'omelettes. Hein? Donc les gens qui avaient du bon sens en Union soviétique se rendaient bien compte qu'avec cette société sans classe qui devait arriver toujours dans le futur, finalement on leur faisait du pipeau. Mais il y a des gens qui sont tellement convaincus. Si vous regardez tout ce qu'ont écrit les gens qui ont écrit Da Vinci Code, etc., qui font ces films-là, ils écrivent qu'ils sont en train de tuer la foi catholique. Et qu'ils vont gagner, ils ne savent pas quand, mais ils disent qu'ils vont gagner. Bien sûr qu'ils se foutent de l'eau dans les jusqu'à le crâne, mais ils le croient vraiment, vous voyez. C'est une, au fond, une foi. L'athéisme, c'est une foi. L'agnosticisme, c'est très différent. L'agnosticisme, qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais pas si je suis. Je ne vois pas, j'arrive pas à dire je crois. Mais il n'est pas contre. L'athée, c'est une foi. Parce qu'il n'a aucune preuve de ce qu'il pense, mais c'est une foi. C'est une foi athée.
C'est comme interdire la terre.
Comme disait Khrouchtchev, je suis athée, Dieu merci.
C'est quand même inquiétant parce que votre sujet du bonheur, le travail pour un enfant, c'est apprendre aussi beaucoup d'efforts.
Oui.
Or, aujourd'hui, nos enfants, sauf à la marge, ils n'apprennent plus beaucoup d'efforts. L'amour pour eux, c'est l'amour que papa a pour maman et que maman a pour papa. C'est le premier amour qu'ils voient. Or, ma fille, maintenant qu'il est jeune, m'a dit, maman, est-ce que tu vas divorcer?
C'est ça.
Un truc, ça m'est tombé sur la tête.
Parce
que ta petite
copine,
parce que le papa et la maman de ta petite copine va divorcer.
Tous les deux sont
et la relation à Dieu, peut-être que nous, dans notre famille, on en parle, mais on n'en fait pas. Je veux dire qu'on est totalement à la marge.
Oui.
Donc, nos enfants pris dans la globalité, cette fusée du bonheur, eh bien, ils ne peuvent jamais la
rencontrer. Oui, ils ne peuvent pas la rencontrer, ils ne peuvent pas la rencontrer à l'extérieur, mais si vous la leur dites et que vous la vivez devant eux, plus la grâce de Dieu, heureusement. Hein.
Mais
Dieu merci.
Dans la globalité, moi, il y a une chose qui m'a absolument effarée. On avait une dame à la maison qui nous parlait de l'aumônerie de cette paroisse. Donc l'aumônerie, c'est l'aumônerie des enfants du collège à 3 encablures d'ici. Et elle disait, nous avons 50% des effectifs d'enfants entre 11 ans et 15 ans. Les parents ne sont pas là. Ils sont laissés totalement à leur libre arbitre. Avec de l'argent, il se trouve qu'on est dans un pays, dans une région où il y a un peu d'argent.
Ça ne va pas durer, donc.
Ça va sûrement pas durer, je suis
d'accord. Ça va s'arranger.
Je sais, je suis assez écrasée. Qu'est-ce que c'est une génération en danger, une génération
en danger. Ah oui, mais c'est bien pour ça qu'il faut en prendre conscience. Et il faut en prendre conscience pour que les parents se rendent compte qu'il faut maintenant, entre parents qui ont compris ça, se serrer les coudes. Vous voyez ? Se serrer les coudes, faire des alliances en permanence, faire que nos enfants se rencontrent, organiser des patronages, ça recommence, vous voyez. Et je vois dans mon diocèse, ils ont redémarré au plus un patronage, ça grimpe comme ça, et notamment les mamans seules sont ravies que leur garçon aille au patronage. Hein? Et les gosses aussi sont ravis, je peux vous dire. Les gosses sont ravis, autrement dit, ça veut dire simplement qu'il faut se retrousser les manches, vous voyez. Il faut se retrousser les manches et agir. Hein?
Quand mon père était gamin, j'avais l'âge de mes enfants, il allait au patronage
du
et le prêtre après leur prêtait les tympans. Et en fait, ils avaient la messe.
Mais moi, j'ai eu beaucoup avec les jésuites, hein, quand j'étais petit.
Mais
prendre une dernière question, peut-être tout là-bas. Il y en a une devant aussi.
Si je l'applique à la conférence de ce soir, je me dis c'est aussi important dans une conférence et puis dans le regard qu'on peut avoir sur notre jeunesse, de rester aussi positif. Parce que moi je trouve quand même que cette jeunesse, elle a peut-être un contexte qui a par certains côtés des difficultés supplémentaires par rapport à ce que nous on a connu, mais il y a aussi des forces extraordinaires. Et moi je pense qu'une jeunesse, si on ne la regarde pas avec espérance et avec positivisme, malheureusement...
Vous avez dans Z. Non. Vous lui y allez. Ça vous permettra de relativiser vos propos. Je suis bien d'accord avec vous qu'il y a des choses belles dans la jeunesse, mais vous n'imaginez pas ce que c'est qu'une zone, hein, vous imaginez pas, ma petite dernière vient d'être 4 ans Z, hein, elle a l'enseignement public, elle pourrait vous faire un cours sur le truc. Et le pire, c'est qu'elle pourrait vous faire un cours sur le divorce qu'il peut y avoir actuellement entre deux groupes de professeurs, dont un groupe de professeurs se dit qu'il faut sauver ses gosses, et ça passe par des règles du jeu, vous voyez, de nouveau, des disciplines, des règles scolaires, etc. Et un groupe de professeurs qui dit non, il faut leur apprendre l'esthétique du geste, il faut leur apprendre à être médiateur, et il faut... Et ça, je vous garantis que c'est les adultes qui sont en train de courir les jeunesses. D'ailleurs, comme on dit, moi je vous dis bien, je n'ai pas dit une seule fois du mal de la jeunesse, j'ai dit du mal de l'environnement en permanence. Et l'environnement, c'est quoi? C'est les adultes, madame.
Oui, c'est nous.
Oui, oui.
C'est nous.
Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Et ça, c'est la réalité, oui. C'est la réalité, c'est
pas... Ça a toujours été la réalité.
Ah, mais non, madame, c'est... Il y a des périodes plus graves. Alors là, toute l'histoire l'atteste. Hein. Toute l'histoire l'atteste. Toute l'histoire l'atteste. Non, ça, alors là, pour regarder l'histoire, elle nous montre sans arrêt qu'il y a des chutes et qu'il faut un moment que les gens donnent un coup de pied sur le fond de la piscine pour remonter. Hein. Moi, j'ai rencontré Marc Robin en 73. Hein. J'ai été voir Marc Robin précisément parce que je venais d'avoir eu ma 7e enfant depuis 6 mois, et je me faisais quand même un souci parce que je voyais la dégringolade dans l'école, dans la rue, dans la télé, etc. Alors je vais voir Marc Robin, je lui dis, je commence à me faire du souci pour le monde dans lequel vont vivre mes enfants. Vous savez quelle était la réponse de Marc? Du tac au tac. Vous n'imaginez pas jusqu'où on descendra. C'est rien à côté de ce que ce sera. Et bien c'est vrai, parce que quand je regarde les émissions de 73 par rapport à celle de maintenant, c'est des émissions pour enfants de cœur et première communion. Ouais. La télé-réalité, par exemple, chaque année on dit ils ont fait un peu plus con et un peu plus vulgaire, et ben non, ils arrivent encore à faire pire l'année d'après. Alors ça, donc, Marc me l'a... Alors, deuxièmement, Marc m'a dit qu'il y aura un renouveau aussi, beaucoup plus rapide que la descente, hein, ça remonterait beaucoup plus haut et beaucoup plus vite que la descente, mais parce que ça sera une action qui viendra de Dieu et pas de nous, hein. Sans illusion. Humainement, ce qu'il faut nous, c'est essayer de mettre en place, vous voyez, des choses, de préparer vers nous, puis d'essayer de sauver les gens. Sinon, on ne peut pas faire plus, hein. Parce que vous ne pouvez rien sur la télévision, sur Internet, etc. Et sur la formation des profs, qu'est-ce que vous y pouvez, comme moi, rien. Si, moi je fais, j'ai créé une association, on forme les profs qui veulent se former, hein, à autre chose. Alors il y aura quelques profs, il y en a des profs, il y a des profs tout à fait remarquables, mais qui, pour voir dans quelles conditions ils se battent, et comme le disait ma petite dernière, dans la dérision de la part de l'autre moitié des profs. Dans la dérision. Et c'est très agréable, vous savez, quand vous vous défoncez pour des gosses, hein, et que vous voyez que tout le monde se fout de votre gueule, vous dites, oh ben elle est complètement ringarde, la petite. Ouais, très agréable.
Et merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Père René. Pour terminer cette soirée, ceux qui le souhaitent, je vous propose de rejoindre l'église juste en face et nous allons prier les complis, voilà, en mettant ce rôle d'éducateur, le nôtre, ceux des enseignants. une prière proposée par les guides. Voilà. Donc, Tancred là-bas va vous distribuer ce qu'il souhaite et qu'on puisse ce soir.
Non, mais je pense pas ça parce que tu es très intéressant.